Né à Rodez en 1919, reçu à l'école des Beaux-Arts à Paris en 1939, mais y ayant renoncé, Pierre Soulages s'installe à Paris en 1946. En 3 ans, sa recherche se concentre sur la couleur noire. En moins de 10 ans, il est très connu à l'étranger. La réalisation des vitraux de l'abbaye Sainte-Foy de Conques rappelle à un public peu habitué des expositions que le génie créateur ne s'enferme pas dans une recette de couleurs. La recherche de la lumière est au cœur de son œuvre. Nous allons en parler avec Pierre Encrevé, qui a réalisé le catalogue raisonné de son œuvre sur toile. Il a ajouté un chapitre sur les 10 dernières années à un volume qui réunit en 2007 les 3 études précédentes et 1/10 des œuvres. Pierre Encrevé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de linguistique à l'École des hautes études en sciences sociales et Votre intérêt pour Pierre Soulages est à la fois une passion pour la peinture et peut-être une recherche sur le langage ou sur le signe. Vous avez écrit un catalogue raisonné. Alors qu'est-ce que c'est qu'un catalogue raisonné? Comment ça se présente?
Un catalogue raisonné, c'est la publication de l'intégralité de l'œuvre. En l'occurrence, j'ai fait le catalogue raisonné des peintures sur toile, qui consiste donc à publier la reproduction, la photo de chacune des toiles, accompagnée d'une notice complète sur tous les éléments de son identité. Son titre, alors les titres de Pierre Soulages, c'est seulement les dimensions de la toile et sa date, la date qu'il lui donne, qui n'est pas forcément nécessairement le jour même où il l'a réalisée, mais le jour plutôt où il considère qu'elle est terminée. Et par ailleurs, la localisation de la toile, son propriétaire actuel, mais aussi les expositions auxquelles elle a participé, l'ensemble des divers propriétaires qu'elle a eus, l'ensemble des achats et des ventes et des achats, et enfin la bibliographie, les livres où elle est reproduite. Je publie cette année au Seuil un ouvrage différent qui reprend la totalité de mes textes, donc qui est finalement le livre le plus complet sur le travail de Pierre Soulages, avec seulement une reproduction d'une œuvre sur 10, 120, je propose 123 illustrations. Mais l'ensemble des textes est ici réimprimé, ainsi qu'un chapitre supplémentaire que j'ai écrit sur les œuvres qu'il a faites depuis que le catalogue s'est arrêté. J'avais arrêté mon catalogue en 1997 et donc je fais un chapitre complémentaire 97-2006.
Alors dites-nous, lorsque Pierre Soulages vient à Paris, qu'il commence à peindre, qu'est-ce qu'il utilise? La toile, le papier, quelle couleur, quelle technique a-t-il? Puisque en fait il n'a pas suivi un cursus d'École des Beaux-Arts.
C'est-à-dire qu'il a été reçu au concours d'admission à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, mais il a refusé d'y entrer, ayant été extrêmement déçu parce qu'il y voyait comme travaux des élèves. Donc il n'y est pas entré, et puis la guerre a éclaté, et il a été dans les chantiers de jeunesse. Et ensuite, il s'est inscrit à l'École des Beaux-Arts de Montpellier dans l'idée de devenir professeur de dessin. Et puis, à la sortie de la guerre, finalement, il est venu à Paris et il a décidé d'être peintre, de faire son métier de la peinture totalement. Et donc, en 1946, il commence à peindre à Paris. Il a très peu de moyens, donc il travaille en effet sur papier, ce qui est beaucoup moins cher, et sur toile, mais ses premières toiles, c'est des toiles de drap. Et il travaille avec des instruments, des pinceaux qui lui conviennent, qui sont des pinceaux beaucoup plus grossiers que les pinceaux ordinaires, c'est-à-dire des instruments de peintre en bâtiment. Et il travaille notamment avec du brou de noix, qui est la peinture la moins chère qu'on puisse trouver.
Qui sert d'habitude à teinter les meubles, plutôt.
Absolument. Et donc, il se trouve qu'il a été connu très vite bien sûr aussi sur toile, parce qu'il a présenté des toiles au salon des surindépendants qui ont été immédiatement reconnues comme les plus intéressantes de l'exposition par notamment Francis Picabia et quelques autres peintres, mais aussi par des étrangers, notamment Dominique a organisé en Allemagne la première exposition de peinture abstraite après la guerre de peintres français, et il l'avait choisi comme affiche un Broudenois de Pierre Soulages.
Donc à Stuttgart, là, on a déjà une première belle affiche.
Oui, cette exposition a été montrée dans une douzaine de villes d'Allemagne, a été très, très remarquée, même par des marchands français qui, comme Louis Carré, qui ont demandé à Pierre Soulages d'entrer dans sa galerie. Mais ce travail a été repéré partout, enfin très vite en tout cas, en France aussi, et pas seulement en Allemagne. Et un jour, en 48, Pierre Soulages a reçu la visite de Sweeney, qui était conservateur au MoMA, et qui lui a acheté un Broudenois. C'est intéressant parce que c'est vraiment pas le Broudenois qui va d'abord être représenté aux États-Unis. Donc un petit Broudenois sur papier. Et puis à partir de là, très vite, il va être acheté par de nombreux musées américains, puis français, puis anglais, etc.
Donc c'est une carrière qui démarre très rapidement. Est-ce qu'il y a en France ou aux États-Unis déjà des artistes qui utilisent beaucoup le noir ?
Le noir apparaît beaucoup après la guerre. On voit de nombreux artistes, en effet, utiliser le noir. En France, on peut penser à Olivier Debray, par exemple, qui a tout de suite travaillé avec du noir, mais pas de la même manière tout de même, et surtout pas exclusivement. Par ailleurs, aux États-Unis, en effet, il y a beaucoup de black paintings. Il y a en 1946 la très, très célèbre exposition de chez MAG qui s'appelle « Le noir est une couleur ». On a tous les grands peintres de l'époque, Matisse notamment. Et donc le noir est en effet à l'ordre du jour. Néanmoins, c'est une peinture, c'est une couleur entre autres. Chez Pierre Soulages, le noir et de façon plus générale les couleurs sombres, puisque le Broudenois n'est pas un vrai noir, vont être dominants. Et c'est ce qui va frapper dans son œuvre, c'est la domination du sombre, mais aussi d'une espèce de force d'affirmation totalement abstraite, mais impressionnante.
Dialogue RCF. Pierre Encrevet, alors quand on regarde une œuvre de Soulages de ces années, disons les années 50 à peu près, on a une grande forme noire qui se détache soit sur une forme claire, soit éventuellement soit sur du rouge ou du bleu ou de l'ocre clair. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comment est-ce qu'on va fixer son regard pour voir quelque chose ?
La première des choses, c'est de bien comprendre que c'est une peinture qui est complètement abstraite. C'est-à-dire, ce n'est pas un langage et ce ne sont pas des images. Ça ne représente rien d'extérieur. C'est une peinture qui est en soi, ce que Soulages appelle,
oui.
C'est une chose qui est proposée au regard du spectateur pour que le spectateur la reçoive à sa façon. Alors, il y a des spectateurs qui projettent sur elle des sens, et comme Pierre Soulages écrivait dès ce moment-là, dès 48. Les sens viennent se faire et se défaire sur elle, mais ce n'est pas une peinture, ce n'est pas une énigme, il n'y a pas un chiffre qu'il faudrait déchiffrer pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire, il a voulu montrer, et il montre un assemblage de formes et de couleurs. Alors, ce qui frappe chez Soulages immédiatement, c'est la puissance d'affirmation, la radicalité, et le noir est une couleur aussi de radicalité. Pierre Soulages dit qu'il aime l'évidence du noir et sa radicalité. Et il y a aussi une grandeur immédiate dans cette œuvre. Et on est, je crois, frappé quand on la reçoit par le fait qu'elle vient de loin. On ne sait pas d'où, mais elle vient de loin et elle atteint chez nous quelque chose qui est très ancien également et très profond. Il me semble qu'on peut très vite deviner que ce qui s'instaure entre le spectateur et le peintre, par l'intermédiaire de l'objet, c'est un dialogue, une relation en tout cas, de sujet de l'inconscient au sujet de l'inconscient. Ça ne passe pas par des représentations déjà faites et donc conscientes. Ça se passe à un niveau plus profond. Ouais, j'ai été extrêmement bouleversé par cette peinture. J'avais 17 ans, j'ai vu la première, c'était une affiche, première affiche de Pierre Soulages dans Paris en 57, qui provenait de la galerie Berghuen. Et j'ai été bouleversé par ce travail qui m'a poursuivi. Après, j'ai acheté une carte postale qui ne me quittait jamais. Et je n'ai connu le peintre que 20 ans après. Et ça n'a rien changé à mon rapport à sa peinture.
Est-ce que la définition de l'art que vous venez de nous donner n'explique pas Pierre Encrevé le succès qu'il a eu aussi en Extrême-Orient ?
C'est vrai que Soulages a été très bien reçu très tôt au Japon, puisqu'il a eu un prix dès 1957, comme il avait été reçu très tôt dans toute l'Europe, puisqu'il a immédiatement, dont j'ai parlé, des États-Unis, mais il a eu très vite des marchands en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et en France. Et également, en effet, au Japon. Et puis, plus tard, il aura des expositions. Il sera également très bien reçu en Chine, en Thaïlande. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça serait particulièrement ou son œuvre serait particulièrement ouverte pour à la culture asiatique, parce qu'elle est également ouverte en Europe. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obstacle particulier pour quelqu'un qui vient de cette culture-là. Je pense que le fait qu'il passe par le noir. Le noir est vraiment une couleur, la couleur universelle et la couleur, la première qu'on rencontre.
Il insiste là-dessus, sur le fait que le noir est antérieur aux couleurs, en fait, puisque le noir est antérieur à la lumière et donc aux couleurs.
Oui, et dans l'expérience subjective de chacun d'entre nous, nous commençons dans le ventre de notre mère sans voir la lumière, et ensuite, dans l'enfance, on est toujours exposé au noir de la nuit, le noir de la chambre noire, et le noir, est, pour tout enfant, c'est la promesse du jour. Hein, le noir est dans, chez Soulages, toujours, le noir est dans des rapports dialectiques d'inséparabilité avec la lumière.
Vous utilisez aussi une citation d'Isaïe pour dire ça.
Tout à fait, je cite Isaïe, « Veilleur, que dis-tu de la nuit, le matin vient ?» Je pense que c'est ce que dit l'œuvre de Soulages. Chez Soulages, la lumière, le noir et la lumière, la présence et l'absence du noir et de la lumière sont inséparables. Alors ça se voit encore beaucoup plus à partir de 1979, où son œuvre va être changée au sens où le noir recouvrira l'intégralité de la surface et les toiles se différeront par l'utilisation justement de l'aspect même de la surface.
Alors peut-être avant que nous parlions un petit peu plus de l'outre noir, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, nous sommes partis tout à l'heure d'une figure noire sur un fond plus ou moins clair, par quelles étapes, quand même ça vous l'expliquez très bien dans votre livre, par quelles étapes de travail est-il passé avant cette invasion du noir qui l'a laissé très très mal à l'aise en 79? Parce que bon, d'abord, il peint avec un grand geste. Après, comment est-ce qu'il travaille?
Alors, d'abord, vous avez employé le mot figure, il faut bien le prendre au sens abstrait. Hein. Ce n'est pas du tout une figure représentative, c'est une forme. Oui. Alors, cette forme, elle est particulièrement affirmée sur papier, quand elle c'est une forme noire sur fond blanc du papier. Et puis ensuite, sur toile, elle sera travaillée avec un fond qui non seulement n'est pas blanc, n'est pas, en tout cas pas toujours, qui souvent n'est pas blanc, mais en même temps a quelquefois des structures, est lui-même structuré. Et puis le travail va évoluer, il va passer notamment par une période très intéressante d'arrachage, où il peint une première couche de couleur sur la toile, et puis il la recouvre de noir et il l'arrache. Et j'en fais l'hypothèse qu'au fond, le travail de Soulages, c'est tout un travail de retardement du moment où la toile sera envahie par le noir. D'une certaine manière, le monochrome devient...
Comme s'il l'avait pressenti, mais qu'il ne voulait pas y arriver.
Oui, vous m'avez interrogé sur le noir dans la peinture en général. Alors en 1945, on voit arriver le noir, mais pas encore le monochrome noir. Mais dans les années 50, Adrenard, bien sûr, mais Yves Klein, de l'autre côté, qui fait des véritables monochromes. Adrenard,
oui,
c'est entièrement noir, mais ce n'est pas vraiment monochrome.
Oui, mais Yves Klein, il n'a pas fait de monochrome
noir. Monochrome noir, non, mais d'autres en feront. Des monochromes noirs, on va en avoir. Le premier grand monochrome noir, c'est Rauschenberg en 51-52. Il fait des white paintings, mais aussi des black paintings. Et on aura donc des grands monochromes noirs dès le début des années 50 aux États-Unis, et des monochromes blancs, et avec Yves Klein, des monochromes de rouge et bleu. Et en réalité, Pierre Soulages n'est pas du tout orienté vers le monochrome. Et au fond, on voit bien qu'il y a comme une espèce de retardement du moment où la toile sera envahie par le noir. Alors le passage par les arrachages est extrêmement intéressant et donne des toiles absolument magnifiques.
Parce qu'il y a des effets de transparence.
Oui, avec beaucoup de transparence. Et puis ensuite, il y aura longue évolution de sa peinture. Il va passer aussi par une phase où vraiment il y aura des formes sur fond blanc dans les années, au début des années 70, mais avec qui ressemble beaucoup plus à des écritures qu'à des signes. Et puis finalement, il aboutira au début de l'année 1979, à ce qu'il a appelé l'outre-noir. Il dit bien outre-noir, c'est-à-dire c'est au-delà du noir, parce que il ne s'agit pas du monochrome. C'est bien une peinture qui est peinte avec le seul pigment noir, une peinture monopigmentaire, mais comme il fait immédiatement jouer sur la surface le reflet de la lumière qui est devant la toile, on a une modification complète par rapport au monochrome. La surface est elle-même traitée soit avec des stries, soit avec des aplats, et quand on se déplace devant elle, elle est insaisissable parce que les noirs et les gris et les surfaces les plus lumineuses s'échangent sans cesse quand le regard se déplace devant la toile.
Dialogue, Daniel Fouilloux.
Pierre Encrevé, en 1959-60, il se fait construire et aménager une maison et un atelier à 7 avec des murs blancs, de très grandes baies qui ouvrent à la fois sur le jardin, sur des conifères très sombres et sur la mer. Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, il s'est rendu compte de tous les reflets extérieurs que le noir pouvait donner. Enfin, c'était...
Alors au moment où il construit la maison de 7, c'est quand même important de préciser pour vos auditeurs que la partie d'habitation est ouverte vers la mer, mais la partie de travail, l'atelier, est ouvert au contraire vers un jardin interne, de sorte qu'il ne voit pas du tout la mer. Il y a un besoin pour lui dans le travail de ne pas avoir de vue et de regarder la toile. Et la toile aussi, à sa façon, le regarde. Et l'outre noir n'apparaît que très longtemps après la construction de la maison. Et donc, c'est vrai que dès qu'il accrochera une toile peinte entièrement au noir face à la lumière de la mer Méditerranée, immédiatement, il sera frappé par le fait que sa toile noire prend toutes les couleurs de la lumière, et la lumière est bleue, comme vous savez. Alors, c'est encore accentué, bien sûr, par le fait qu'on est en face de la mer. Et il y a certainement, à ce moment-là, un effet qui accroît encore sa passion pour ce genre de travail, parce que l'exposition au jour, l'exposition continue au jour, fait en effet sans arrêt changer la couleur de la toile.
Un petit mot aussi sur les dimensions.
Les dimensions, alors on pourrait en parler beaucoup, mais je dirais simplement que les dimensions n'ont pas cessé de croître. Et on était parti de toiles de dimension moyenne, et il va avoir des dimensions de plus en plus grandes. Mais surtout, à partir des années 70, mais plus exactement, ça ne va vraiment être un travail systématique qu'à partir des années 80, on va avoir le travail du polyptyque. Alors le polyptyque en soi, c'est quelque chose qui traite autrement la peinture. D'abord, ça permet évidemment une surface beaucoup plus en plus grande, mais aussi des arêtes dans la peinture. La saisie n'est pas tout à fait la même. Il y a une architecture qui s'impose avec une rigueur qui est géométrique due au cadre. Et il travaille beaucoup avec ce découpage de la toile que donne le polyptyque. Alors, découpage que soit il accentue, soit au contraire il atténue, soit il masque, enfin, tout le travail qu'on peut faire.
Un travail qu'il continue encore un peu, je pense qu'il fait encore des politiques.
Il travaille encore avec des politiques. Oui.
Bien. Alors, vous nous évoquez bien sûr Conques, c'est en 1986 que Pierre Soulages reçoit la commande des vers de Conques. Dans quel esprit est-ce qu'il va aborder cette commande ?
Il se trouve que Pierre Soulages a été élevé à Rodez, qu'il connaît depuis toujours l'église de Conques. Sa maman l'y a emmené très tôt, il devait avoir 4 ou 5 ans. Et puis, plus tard, il a été conduit aussi, quand il avait une douzaine d'années, par un professeur, le professeur de français, je crois d'ailleurs, ou d'histoire, du lycée, qui en autobus a emmené toute sa classe visiter Sainte-Foy.
Et ça lui a fait...
Un choc extraordinaire. Là, depuis toujours, il peignait sur ses feuilles de papier avec de l'encre qu'il dessinait. Il a décidé devant Conques d'être artiste à plein temps. Et comme l'art qu'il pratiquait déjà comme enfant était la peinture, il a décidé d'être peintre. Là, à Conques. Et Conques, c'est une expérience très forte. Mais à cette époque, Conques n'avait pas de vitraux. Les vitraux ont été posés pendant la guerre par le secrétaire d'État Hautecoeur dans le régime de Vichy. Et donc, les vitraux sont posés à ce moment-là. Ce sont des vitraux qu'on peut dire de type Saint-Sulpicien, qui vont énormément priver la abbatiale de lumière parce qu'ils vont assez foncés. Et d'un coup, ce que Pierre Soulages avait vu comme enfant, c'est-à-dire simplement des grisailles, c'était des fenêtres, enfin c'était du verre. Hein. Il voyait la beauté de la lumière à l'intérieur, la couleur des pierres. Et l'architecture, c'était voilé. Donc, quand on lui a proposé, quand Claude Mollard lui a proposé de mettre des vitraux dans les 104 fenêtres de l'abbatiale de Conques, il a repensé à son expérience d'enfant. Jusqu'à présent, il n'avait jamais voulu faire de vitraux, mais là, il a accepté. Mais dans l'idée, justement, de retrouver ce qu'il avait vu, c'est-à-dire surtout rendre à l'abbatiale sa lumière. Donc, il a fait des vers qui ne sont pas colorés, qui sont incolores, mais qui ne sont pas non plus translucides, qui ne sont pas transparents, et qui sont des vers qui ont une structure de vers qui, à la fois, laisse passer et retient la lumière, si bien que toute une partie de la lumière se trouve souvent de l'autre côté, du côté externe à la basilique.
Donc on voit à la fois les vitraux de l'extérieur comme de l'intérieur.
À double face, parce que là où le verre a une structure très forte...
Qu'il a inventé,
un verre qu'il a entièrement inventé. Là, une structure très forte, le bleu va être retenu à l'extérieur. Et quand la structure laisse davantage passer la lumière, alors on aura une grande luminosité de type plus blanc, plus jaune, plus du côté plutôt chaud, le côté froid restera plus à l'extérieur, donc cette luminosité à l'intérieur. Et bien entendu, avec l'évolution de la lumière du jour, tout du long de la journée, la lumière se transforme à l'intérieur de la abbatiale, mais toujours à tout moment, l'architecture en est exaltée. Et il y a là une expérience extrêmement forte. Quand on peut y aller, y passer quelques heures, c'est une expérience...
Oui, il ne faut pas la visiter à un moment, mais à plusieurs. Il faut pouvoir s'en imprégner vivre un peu avec cette lumière.
Et se dire aussi que Pierre Soulages, qui n'est pas du tout... Qui ne s'est pas du tout posé la question d'un art sacré, jamais en ces termes, mais seulement de s'associer à ce que l'abbatiale disait d'elle-même, du simple fait que les constructeurs de l'abbatiale avaient, eux, un projet qui n'était pas indifférent. D'une certaine manière, il est aussi au service de ce projet.
Et ça, vous résumez bien, là, l'œuvre de Soulages dans ce domaine. Pierre Soulages, la célébration de la lumière. Je vous remercie, Pierre Encrevé. Je donne le titre de votre ouvrage, Pierre Encrevé, Soulages, les peintures, 1946-2006. Paru au Seuil en 2007, mais il y a encore d'autres ouvrages sur Soulages que vous allez publier rapidement. Je vous remercie.
Merci.